wins 100 points out in the West.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Bonsoir et bienvenue dans Radio X-Files sur les ondes de Choix Radio X. On entend mais déjà cette deuxième semaine de la nouvelle formule avec nul autre que Christian Page. Bonsoir Christian.
Bonsoir Camille.
Je sais pas si tu as remarqué comme moi, je suis pas prête à l'accepter par contre, mais je vois tranquillement pas vite que les arbres changent de couleur là, dans mon coin.
Es-tu folle?
J'aimerais dire que non.
Parle pas de ça.
Non, je sais, mais ça commence tranquillement.
Oui,
et j'ai vu officiellement les décorations d'Halloween arriver dans les magasins. Donc voilà, ceci étant dit, est-ce que tu as passé un bon week-end?
Oui, mais là, tu viens de gâcher. Là, j'essayais de les tirer, mais bon. Non, effectivement, faut bien se le dire que malheureusement, comme chaque année, l'hiver va arriver.
On avance.
Malheureusement, oui.
Ce soir, on est de retour avec la thématique, deuxième semaine de la thématique des ovnis. On va parler principalement le sujet ce soir en deuxième partie d'émission. Tu vas nous présenter carrément une entrevue sur l'affaire de Valensole.
On dit Valensole.
Valensole,
on est en France ici, là, c'est Valensole.
Ben merci.
Donc, c'est une histoire d'ovni célèbre qui a beaucoup marqué l'imaginaire, qui s'inscrit dans une période qui était très, très faste en termes d'observation d'ovni. Et là, on nous annonce, il suffit de consulter un peu les médias sociaux pour voir en France, surtout les médias sociaux qui parlent d'ovni là en France, les blogueurs et les youtubeurs en France parlent de la sortie prochaine de ce film Valensole, qui se veut une adaptation cinématographique d'un événement qui s'est produit en 1965. Et j'ai eu la chance de m'entretenir il y a quelques jours avec le réalisateur du film. Et on fera entendre en deuxième partie d'émission cette entrevue avec Dominique Filol, qui est le réalisateur du film en question. Mais en premier,
oui.
Restons dans le domaine des actualités. Écoute Camille, il fallait vivre sur une autre planète pour ne pas avoir vu passer cette actualité dans l'univers des ovnis qui a marqué les derniers jours. On a publié une des photographies les plus attendues de toute l'histoire des ovnis, une photo qui est connue sous le nom de l'ovni de Calvin. Donc, je te raconte grosso modo l'histoire et tu vas comprendre pourquoi les amateurs d'ovnis étaient en attente de la publication de cette photographie. En fait, on n'y croyait plus vraiment. Donc, l'affaire remonte au 4 août 1990. Ce jour-là, deux jeunes cuisiniers d'un hôtel de luxe qui se trouve à Perthshire Town. On est ici dans le centre de l'Écosse. Donc, ils prennent un moment de congé en milieu de journée et puis décident d'aller se balader sur la A1 du côté, là, on est du côté sud-centre de l'Écosse. Et puis, alors qu'ils roulent, il y a à peu près 21 heures, les deux jeunes aperçoivent dans le ciel un objet. Bon, d'après leur témoignage, un objet qui ressemble à un losange.
Oui.
L'objet se tient immobile dans le ciel. Ils ont le temps de l'observer. Ils n'entendent... Bon, les récits sont un peu contradictoires. Ils vont dire au départ qu'ils entendent comme une espèce de sifflement. C'est assez silencieux, mais quand on y prête attention, on pouvait entendre un léger sifflement. Et puis, à ce moment-là, deux avions de l'aviation britannique traversent le ciel et là encore les récits sont un peu contradictoires. Vont-ils se diriger immédiatement vers l'objet ou vont-ils faire un détour pour aller vers l'objet? Ça reste un peu ambigu sur le témoignage et tu vas comprendre pourquoi le témoignage est si flou, hein, parce que donc les jeunes voient cet objet, voient les avions militaires tourner autour de l'objet et ils ont le temps de prendre 6 photographies de l'objet avant que les avions s'éloignent et que l'objet monte rapidement dans le ciel dans un silence presque total. Donc ces fameuses photographies, hein, comme elles ont été prises près de la localité de Calvin, elles seront connues dans les milieux ufologiques comme étant les photos de Calvin. Donc, immédiatement après l'observation de l'OVNI, donc les jeunes ont ces fameuses photos, ces 6 photographies. Donc, ils, d'un commun accord, ils décident de communiquer ces photos au public. Et donc, le lendemain, l'un d'entre eux se présente au Daily Record, qui est un journal, un quotidien écossais excessivement populaire. Et il raconte, le jeune raconte son histoire en disant, avec un copain, nous avons vu cet objet en forme de losange, les avions. Et bien sûr, à l'appui de son récit, il y a ces fameuses photographies. Or, c'est à partir de là que l'histoire s'embrouille. Donc, le Daily Record, comme n'importe quel journal, aurait été tenté de publier immédiatement ces photographies exclusives, mais la direction décide de faire quelque chose de différent. Avant de publier les photographies, la direction contacte le département de la Défense, qui à l'époque, en 1990, bien sûr, colligeait, comme n'importe quel département de la Défense, colligeait des observations d'OVNI, mais... contrairement à certains pays, comme ici au Canada, si on avait une observation d'OVNI et on la communiquait, c'était l'information elle passait d'abord par la Gendarmerie royale du Canada avant de terminer son trajet au Centre national de la recherche scientifique à Ottawa, où l'information était archivée si elle ne concernait pas un météorite. Donc, dans bien des cas, les gens disaient « Ah, l'objet, bon, il fait tel mouvement, il s'est éloigné. » Donc, uniquement par la description, on pouvait deviner qu'il ne s'agissait pas d'un météorite. Et il faut savoir que au Canada, l'intérêt pour les objets volants non identifiés à cette période, on est au début des années 90, était plutôt de récupérer des météorites s'ils tombaient au sol.
Ah ouais, c'est drôle, le clash entre... on a l'impression qu'aux États-Unis, on voit des ovnis partout, mais au Canada, on va dire « Ah, ça doit être une météorite. »
Oui, c'est ça. Donc, je dis, bon, j'ai fait un pléonasme. La météorite, si elle tombe au sol, en fait, c'est un météore tant qu'il n'a pas tombé au sol. Une fois qu'il est tombé au sol, c'est une météorite. Donc, c'était l'idée de récupérer des météorites. Et donc, on envoyait la GRC, qui est généralement le premier intervenant là, au Canada, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a seulement 2 provinces qui ont des police provinciale, à savoir l'Ontario et le Québec. Dans le reste du Canada, c'est la GRC qui agit comme premier intervenant. Donc, si on observait un OVNI, on contactait la GRC. La GRC prenait la déclaration et l'envoyait à Ottawa. Ici, à Ottawa, on disait, c'est peut-être une météorite. On pouvait peut-être envoyer des chercheurs récupérer ou chercher le débris en question. Sinon, c'était simplement classé dans un dossier qui s'appelait objet non météoritique. Et éventuellement, tout ça a terminé aux archives nationales. Donc, en Grande-Bretagne, en 1990, on est quand même un peu plus impliqué. On a un bureau qui s'intéresse davantage à la question des ovnis. Donc, le journal, le Daily Records, décide de contacter ce bureau pour avoir un peu leur impression. Des jeunes ont observé un objet étrange à Carvin. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? D'autant plus que les jeunes racontent que des avions militaires auraient tourné autour de l'objet. Alors, on contacte le département le ministère de la Défense, et éventuellement, on décide, le ministère de la Défense semble dire, parce que l'histoire est un peu floue, là, le ministère de la Défense semble dire au journal ne publiez pas immédiatement ces photographies, on va vous envoyer quelqu'un qui va récupérer, qui va regarder les photos, faire peut-être un commentaire et peut-être s'entretenir avec le ou les témoins. Donc, ce militaire se présente, ce militaire contacte le Daily Records, informé par ses supérieurs. Il raconte le Daily Record leur raconte leur histoire, l'histoire, et éventuellement le militaire en question dit est-ce que vous avez les négatifs avec vous, les photos? Et le journal répond bien sûr, les jeunes vous ont laissé les négatifs. Alors le militaire demande à voir au moins une photo pour pouvoir faire un commentaire. Donc le journal sans problème dit on va imprimer la photo qui nous semble la meilleure sur les négatifs et on vous envoie ça par courrier et puis on va attendre vos commentaires avant de publier. Donc la photo arrive 2 jours plus tard chez notre militaire en question qui lui prend la photographie, regarde ça, il y a pas beaucoup de commentaires à faire, l'objet c'est un objet qui semble se tenir immobile dans le ciel et puis donc il appelle ses supérieurs, décrit un peu l'image et là ses supérieurs lui demandent s'il est possible d'avoir la bande de négatifs au complet et aussi la version des témoins. Donc, notre militaire en question à nouveau contacte le Daily Records. On lui dit qu'il n'y a pas de problème, les photos, les négatifs sont tout à fait disponibles. Donc, il se rend sur place rencontre les gens du Daily Record, récupère les négatifs et va faire une entrevue, va interroger les jeunes à ce moment-là pour avoir leur version des faits. Et tout ça sera éventuellement envoyé au ministère de la Défense britannique. Et à partir de là, donc, les choses s'embrouillent un peu. On sait plus trop ce qui va arriver ou quel commentaire sera fait. Éventuellement, et là, j'utilise le conditionnel, et éventuellement, le négatif sera retourné au Daily Records qui va le remettre aux témoins sans jamais publier les photographies. Donc, c'est quand même curieux, hein, un journal qui, bon, ben voilà, qui a vu passer entre ses mains une exclusivité et que finalement décide de retourner les négatifs aux photographes. Merci, bonsoir. Puis on ne parle plus de votre histoire.
Ça va à l'encontre de l'instinct journalistique, mais ça.
Ouais, c'est un peu mystérieux. On va apprendre. On a appris tout récemment, ben, dans les derniers jours, il y a quand même une petite affaire là-dedans qu'on doit mentionner. C'est qu'à l'époque, l'éditeur en chef du Daily Records travaillait comme conseiller pour... avait comme deux chapeaux. Hein, il travaillait comme conseiller au ministère de la Défense britannique donc pour les questions névralgiques et secrets de défense. Donc, on voit qu'il y avait quand même... J'imagine que quand il a vu les photographies, il s'est dit, tiens, est-ce que, au hasard, ça ne pourrait pas être quelque chose qui relèverait du secret défense? Et là, c'est plutôt l'intérêt du secret défense chez lui qui a pris le devant, plutôt que son instinct journalistique. Ainsi, donc, il a contacté ses supérieurs, et ce qui explique un peu comment la situation s'est passée. En fait, si on regarde ça froidement, le Daily Record était probablement le pire journal auquel les jeunes pouvaient amener leurs photos. N'importe quel journal écossais se serait fait un plaisir de publier les clichés en question, mais le Daily Record, comme le rédacteur en chef avait un lien avec le département de la défense, le ministère de la Défense, bien évidemment, les choses ont tourné autrement.
Pour être poli, on va dire qu'il y a eu apparence de conflit d'intérêt, hein, Christian?
Oui, absolument. Et là, qu'est-il advenu de ces photos-là? Donc, qu'est-ce qu'on en sait de ces photographies-là et comment cette histoire-là a été connue puisque les photos n'ont jamais été publiées? Ben, il faut dire que en 2000, il y a un type qui s'appelle Nick Pope. Nick Pope, on en a même parlé la semaine dernière. Souvent, il est présenté dans les médias comme un ancien conseiller du ministère de la Défense britannique pour la question des ovnis. Ben, c'est pas tout à fait ça. Entre 1991 et 1994, Nick Pope travaillait comme assistant au bureau de coordination de l'armée de l'air et ses fonctions étaient de répondre au téléphone si les gens rapportaient des observations d'ovnis. Donc, quelqu'un voyait un ovni, on appelait, on envoyait ça au bureau de coordination, on transmettait l'appel au bureau de coordination. Et là, Nick Pope, en parlant avec le témoin, pouvait colliger le rapport. Si l'information était relativement importante et concernait un dossier important, Nick Pope se devait de l'envoyer à ses supérieurs qui l'acheminaient à un bureau d'enquête du ministère de la Défense. Nick Pope lui-même n'avait pas pour mandat d'enquêter sur les observations d'OVNI, si ce n'est de prendre les déclarations des gens qui appelaient au téléphone comme ça pour dire « j'ai vu un OVNI ». Donc, Nick Pope, en 2000, publie un ouvrage qui s'appelle « Open Skies », Closed Mind. Et dans cet ouvrage, il raconte ses années au sein du ministère de la Défense. Il parle des observations d'OVNI les plus extraordinaires qu'il a dû qu'il a obtenu au bureau, sur lesquelles il a dû plancher durant cette période. Et il consacre quelques paragraphes à l'OVNI de Calvin. Il faut se rappeler que Nick Pope, hein, comme il prend son service en 1991, l'histoire des photos de Calvin sont déjà anciennes depuis un an. Donc, lui, il en parle en disant « Pendant que j'étais au bureau, il y a une histoire dont on parlait beaucoup. C'était un an plus tôt, une photographie qui avait été prise en Écosse, l'OVNI de Calvin. Il y avait des avions militaires impliqués là-dedans. » Il dit « Cette histoire-là était si extraordinaire, les photos étaient si spectaculaires qu'on en avait même imprimé un poster qui était affiché dans mon bureau. » Et pendant donc plusieurs mois, le poster a été affiché dans le bureau qui représentait une des photos de l'OVNI de Calvin, entre guillemets. Et éventuellement, à peu près à la même époque, bon, le poster, ce qui est arrivé, on le sait pas trop. Nick Pope a raconté dans une entrevue, il dit qu'à un moment donné, un haut gradé du département de la Défense était rentré dans le bureau, avait vu la photo sur le mur, puis avait dit « tu vas m'enlever ça de là, il faut pas que les gens voient ça
bon. ».
Là, on tombe un peu dans le complot, mais bon, je le mentionne parce que Nick Pope a raconté cette histoire-là. J'avoue que j'ai un gros bémol là-dessus, mais néanmoins, Nick Pope dit « on a détaché le poster, on l'a roulé, puis on l'a mis dans un tiroir, puis on sait plus ensuite ce qu'il est advenu de ça. En dehors de cette histoire, bon, au moment où lui, Nick Pope, raconte cette histoire-là en publiant cet ouvrage en 2000, où il consacre quelques paragraphes à l'histoire, il y a une photocopie qui se met à circuler dans les milieux intéressés par la question des ovnis en Grande-Bretagne. C'est une photocopie de très mauvaise qualité. On va apprendre éventuellement que c'est un fax. En fait, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un fax, les plus jeunes d'entre
Salut.
Vous qui nous écoutez, donc un fax, hein, c'était comme un téléphone avec un photocopieur accroché après et on mettait la feuille dans le fax qui était transmise par la voie téléphonique à un autre, entre guillemets, photocopieur à l'autre bout de la ligne qui réimprimait la photo. Tu vois un peu le genre?
Oui.
Et la qualité, la qualité de ces images-là était tout à fait épouvantable. Donc, on a pris la photo à un moment donné, quelqu'un a pris une des photos de Calvin. On sait aujourd'hui que c'est le même militaire qui avait rencontré les témoins et qui avait obtenu une photo du Daily Record avant d'aller chercher les photographies. C'est lui qui aurait transmis la photo à son bureau en utilisant un fax. Et c'est ce fax qui s'est retrouvé à circuler dans les milieux ufologiques aux années autour des années 2000. Donc, le fax est de très mauvaise qualité. On voit une espèce de losange noir avec au côté un avion, puis c'est à peu près tout ce que l'on voit. Et éventuellement, cette image-là était tellement de mauvaise qualité que des gens intéressés par la question des ovnis, intéressés d'enquêter sur l'histoire de Calvin, ont reproduit cette image-là en faisant une espèce de photomontage. Donc, on a pris une photo d'un avion Harrier, qui est un avion britannique dans le ciel. On a créé un faux ovni qu'on a mis dans le ciel avec un paysage derrière. Ça a un peu embrouillé les cartes parce que cette photo a beaucoup circulé dans les milieux ufologiques et souvent, elle était présentée comme l'une des photos de l'ovni de Calvin, alors que c'était un photomontage.
Fait qu'il y a même des gens qui ont essayé de prendre le crédit de cette photo-là en la falsifiant, là, en créant une.
Ouais, je sais, je pourrais pas te dire à ce moment-là si les gens ont volontairement voulu tromper les gens, mais c'est certain que ceux qui ont fait le photomontage, au départ, l'ont présenté comme étant un photomontage. Mais comme c'est souvent le cas dans le domaine des ovnis, on ne lésine pas sur les détails. Donc la photo, c'était à cette époque, c'était avant les médias sociaux. Hein. En fait, les médias sociaux étaient débutants au tournant des années 2000. Donc ça s'est retrouvé sur des babillards, comme on disait à l'époque. Et puis éventuellement, plus les médias sociaux sont devenus omniprésents, mais plus la photo s'est mise à circuler. Et très souvent, on la présentait, c'est « Voici l'ovni de Calvin ». En réalité, c'est une photo montage reproduite à partir d'un fax qui montrait l'ovni de Calvin. Quant à l'ovni de Calvin lui-même, ce qui est advenu des clichés, on le sait pas trop.
Oh.
D'après une rumeur, les photos, les négatifs ont été retournés au Daily Record qui l'a remis au photographe. Les noms des témoins n'ont jamais été publiés. Et on a appris que le nom des témoins ne serait pas publié, avec l'événement vers lequel je t'amène, des gens ont vite posé la question au ministère de la Défense, quand allons-nous connaître le nom des témoins? Et le ministère britannique a dit, pas avant 2076.
Oh, ils ont poussé ça, hein?
Mais c'est pas très mystérieux. En fait, beaucoup d'amateurs d'OVNI qui ont joué là-dessus, si c'était vrai, si c'était pas vrai, ou si c'était un trucage, ou si c'était pas sérieux, pourquoi repousser l'identité des témoins jusqu'en 2076? Parce que c'est la loi britannique. Un point, c'est tout. Donc, il n'y a pas... Non, mais tu sais, il ne faut pas voir de mystère là-dedans. Tu sais, les dossiers de Jack l'Éventreur, dont j'ai souvent parlé à l'émission, c'est moi, j'ai eu accès au dossier de Jack l'Éventreur, mais ça coïncidait pratiquement avec le 100e anniversaire des crimes de l'Éventreur, parce que la loi britannique dit, une fois qu'on a un événement pour lequel on n'a pas d'explication, quel qu'il soit, pour des raisons X ou Y, la loi britannique dit que les informations doivent demeurer confidentielles pendant un siècle.
Ah, OK, c'était un siècle, eux autres.
C'était un siècle. Donc, les crimes de l'Éventreur avaient eu lieu en 1888. Ben, les journalistes n'ont eu accès au dossier de l'Éventreur. Les dossiers ont été déposés aux Archives nationales et les journalistes n'ont eu accès au dossier qu'à partir de 1988. J'ai été parmi les chanceux
qui ont eu
accès au dossier quelques années avant. Parce que il y avait une telle pression sur le gouvernement britannique à propos des crimes de l'Éventreur, qu'on se doutait bien qu'à partir des années 1970-1980, Jack l'Éventreur devait être mort, puis ça ferait plus grand-chose d'avoir accès à ces dossiers. Donc, progressivement, Donc, ou je te dirais 1982-1983, donc on est 5-6 ans avant la date butoir que le gouvernement britannique avait imposée. Il a commencé à avoir des communiqués, des accès qui ont été autorisés. Moi, je suis l'un de ceux, un des premiers, peut-être le premier journaliste francophone qui a eu accès au dossier de Jack Léventreur à cette époque. Mais bon, on en revient à notre photo de Calvin. Le gouvernement, le ministère britannique dit, l'identité des témoins, voyez pas de mystère là-dedans, il n'y a pas de complot, l'identité des témoins sera conservée jusqu'en 2076 parce que on veut pas que ces gens-là se fassent harceler au téléphone. Oui, vous avez vu un ovni, etc. Donc, c'est pour une question de protection de l'intimité, de la vie privée que le gouvernement britannique a décidé de maintenir ce veto, si je puis dire, sur le nom des témoins. Mais inutile de dire qu'à partir de la publication du livre de Nick Pope en 2000, qui avait évoqué l'affaire de Calvin en quelques paragraphes, les amateurs d'OVNI ont sauté là-dessus et ils ont fait leurs propres investigations. Donc, ils ont commencé à regarder, on dit, parce que Nick Pope, dans son livre, donne la date, le lieu et l'heure. Il nous dit, c'était le 4 août 1990, on est en banlieue de Calvin, en Écosse, et il est 21h. Donc, les amateurs d'OVNI, à partir de ces maigres informations, ont mené leurs propres enquêtes pour finalement tombé dans un cul-de-sac. En fait, ils ont absolument rien obtenu. Pire, en vérifiant, il y a deux bases militaires britanniques qui sont dans le secteur de Calvin.
Okay.
Et ni l'une ni l'autre n'a participé à des manœuvres militaires dans la soirée du 4 août 1990. Là, je sais que des gens diront « Oui, mais c'est normal, c'est des militaires. » Ça fonctionne pas comme ça. Ça, si vous pensez encore ça, c'est parce que vous croyez aux licornes. Il faut bien comprendre que les militaires ont des corridors qui leur sont attitrés. Donc, les militaires n'ont pas à rendre compte de quoi que ce soit tant et aussi longtemps qu'ils circulent dans ces corridors militaires. Mais lorsqu'ils doivent se détourner, imaginons un instant un ovni au-dessus de Québec. Donc, on décide d'envoyer des avions pour l'intercepter. Les avions vont partir très certainement de Bagotville, vont se diriger vers la capitale, mais à un moment donné, ils devront, si l'OVNI, par exemple, fait du surplace au-dessus du château Frontenac, à un moment donné, ils devront bien quitter les corridors qui sont attitrés aux avions militaires. Et ça ne fait pas ça comme ça, là, de même, moi, je décide de faire ça. Non, il y a d'autres avions qui volent. Ce sont des avions qui peuvent transporter de la marchandise, ça peut être des avions de passagers. Ce sont aussi des petits avions privés. Le ciel est occupé.
Oui, donc, c'est contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on n'en voit pas souvent.
Oui, c'est ça. Donc, le ciel est occupé.
Il y a des voies. C'est ça.
Voilà. Donc, si les militaires décident de dire, nous, on doit se diriger vers le château Frontenac, ils ont parfaitement le droit de le faire, ils doivent contacter l'aviation civile et dire à l'aviation civile, on doit se rendre au château Frontenac. Le secret militaire ne les oblige pas à dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais voler dans le ciel, c'est pas un secret d'État, ça. Si tu voles dans le ciel, là, t'es pas obligé de dire ce que tu t'en vas faire, mais t'es tenu de contacter l'aviation civile.
Donc, il y aurait des traces de ça.
Voilà, donc tu dois dire à l'aviation civile, nous, on va quitter notre corridor militaire, on va pénétrer dans une zone d'aviation civile, on veut savoir quel vecteur on doit prendre. Et là, l'aviation civile va dire, vous pouvez voler, par exemple, à 5000 mètres d'altitude en suivant telle ou telle direction, nord, sud, ouest. Donc, on donne des informations. Entre-temps, l'aviation civile aussi va prendre contact avec les autres avions qui sont dans le secteur pour s'assurer qu'il n'y aura pas sur cette trajectoire et à cette altitude d'autres avions qui pourraient entrer en collision avec les avions militaires. Et les avions militaires sont équipés de balises, ce sont des transpondeurs dans le milieu de l'aviation, et les transpondeurs envoient des informations, un code alphanumérique qui apparaît sur les écrans radars, et ce code alphanumérique dit aux contrôleurs aériens, je suis un F-18, je vole à telle altitude, je vole à telle vitesse, donc il donne de l'information. Donc, si on transpose ça à notre histoire d'OVNI de Calvin, à moins que par un coup de chance extraordinaire, l'OVNI de Calvin se soit retrouvé dans un corridor aérien attitré essentiellement aux militaires, il a bien fallu qu'à un moment donné, les avions militaires, qu'ils aient été à la chasse à l'OVNI ou qu'ils se soient détournés pour aller voir l'OVNI, à un moment donné, ils ont dû pénétrer l'espace aérien civil, et à ce moment-là, ils auraient dû le faire avec la collaboration de l'aviation civile, et ça laisse des traces.
Et Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que s'il y a eu OVNI, ils avaient la technologie pour déceler, détecter les corridors aériens militaires?
Mais bref, on sait que ce soir du 4 août 1990, il n'y a eu aucun avion militaire qui a été qui a circulé dans des espaces de l'aviation civile au-dessus de Calvin en Écosse. Donc, à ce moment-là, les amateurs d'OVNI qui suivaient cette piste ont fait chou blanc. Ils ont eu beau aussi parler de cette histoire-là à la radio, dans les médias, les photographes. Puis les photographes, il faut se le dire, ils étaient pas contre l'idée que leur histoire soit publiée, puisque ce sont eux qui les premiers ont fait une démarche au Daily Record pour publier leur histoire et leurs photos. Tu comprends? Donc, c'est pas quelque chose qu'on va déterrer, là. Or, malgré l'effort des amateurs d'OVNI de publier cette histoire-là, d'en parler, ils ont fait circuler des photocopies de la photo qu'on connaissait. Ils ont fait aussi circuler la photomontage qui reproduisait l'histoire d'OVNI. Jamais les photographes ont sorti de l'ombre pour dire c'est nous qui avons pris cette photo-là. Ça, c'est resté secret. Pourquoi? Un peu, ou bien ils n'ont jamais entendu parler, ce qui serait quand même étonnant, parce que c'est une histoire célèbre en Écosse. Et pourquoi ne sont-ils pas revenus à la charge en disant on a vu des ovnis, puis on vous le publie, on voici nos noms, puis publier nos photos? On ne le sait pas trop. Bref, cette histoire-là, en Grande-Bretagne, est devenu mythique. Et puis, je dis Grande-Bretagne, mais en fait, dans le milieu ufologique, on a énormément parlé de cette histoire-là. C'est devenu un peu mythique. Et preuve qu'il ne faut jamais baisser les bras, un journaliste britannique qui est très impliqué dans le domaine des ovnis depuis quelques années, il agit même comme consultant pour la question des ovnis auprès des archives nationales britanniques. C'est vraiment un individu qui fait un travail extraordinaire. Ce type, David Clark, a réussi à retrouver le militaire qui, à l'origine, avait reçu la photo par la poste, qui avait rencontré les témoins, puis qui avait pris la déclaration des témoins. Il a réussi à retrouver ce type-là, un type qui s'appelle Craig Lindsay, et il l'a retrouvé, et lorsqu'il l'a eu au bout de la ligne, Craig Lindsay a dit oui, c'est moi qui ai été chargé de cette histoire-là. Et donc, il a raconté un peu ce que je t'ai raconté, que ses supérieurs lui avaient dit de récupérer les négatives, de parler avec les témoins. Et l'histoire telle qu'on ne s'y attendait pas, il dit, vous savez, à l'époque, il dit, le Daily Record m'avait envoyé une photo, un gros, pour utiliser les standards ici, là, un gros 8x10 couleur de l'une des meilleures photos qui était sur la bande des négatifs. Donc, ils m'ont envoyé cette photographie-là. Et je l'ai toujours sur mon bureau depuis 32 ans.
Wow!
Écoute, c'est renversant, là. Une des photos les plus convoitées dont on avait tant parlé lui-même, Greg Lindsay a dit à David Clark, il dit, je n'ai entendu parler une couple de fois. Ça m'a tenté, à un moment donné, de prendre le téléphone puis de dire, arrêtez de faire un chiard avec ça. La photo traîne sur mon bureau depuis 32 ans.
C'est ça, il s'est jamais manifesté.
Fait que finalement, Greg Lindsay a accepté de recevoir David Clark, qui s'est rendu chez lui. Il a fait une longue entrevue avec lui. L'ancien militaire retraité, hein, qui a 83 ans, s'est pas senti obligé de quelques secrets militaires ou quoi que ce soit. Il a raconté l'histoire, comme je te l'ai raconté. Il a pas tellement suivi le dossier par la suite. Il dit, donc, j'ai parlé avec les témoins, j'ai récupéré les négatifs, j'ai envoyé ça à mes supérieurs, puis bon, éventuellement, les négatifs ont été retournés. Il y a eu une analyse qui a été faite. Visiblement, les photos avaient pas été truquées, c'est-à-dire que le négatif avait pas été altéré. Ça veut pas dire que ce qui est tué est vrai, là. Probablement des photos de tes petits-neveux avec le Père Noël, ça veut pas dire que c'est le Père Noël qui apparaît sur la photo est vrai.
Ça, c'est un autre mystère, Christian.
Tu comprends-tu? La photo peut être authentique sans être retouchée, mais ça veut pas dire que ce qu'on on voit sa photo est vraie. Donc, il dit, on a fait une enquête, mais visiblement, de la façon dont il s'exprime, c'était pas la grosse affaire. Tu sais, ce qu'on voit, on dirait que avec le temps, l'histoire est devenue fabuleuse parce qu'on n'avait pas accès aux négatifs, on n'avait pas accès aux photos, on connaissait pas le nom des témoins. On a monté cette histoire-là comme si c'était devenu une espèce de secret d'État. Ce que Greg Lindsay dit que c'était pas du tout le cas. Ils ont reçu les photos, ils ont regardé ça, merci, bonsoir, puis on pense à autre chose. À l'époque, Il y avait, c'est vrai qu'au début des années 90, il y avait une rumeur qui voulait, il y avait eu une vague d'observations très importante d'ovnis sur la Belgique. On parle de fin 1989, début 1990. Les gens, les Belges, et principalement la partie francophone de la Belgique, disaient voir une espèce de triangle volant. Et à un moment donné, des journalistes ont évoqué la possibilité que ces triangles volants ne soient pas des engins venus d'une autre planète, mais peut-être des engins, des avions militaires secrets américains disposant d'une technologie furtive et avec des formes aéronautiques tout à fait extraordinaires. Et à ce moment-là, on ne connaissait pas encore l'existence du F-117 Stealth Fighter, on ne connaissait pas le B-2, donc on avait toutes sortes de rumeurs. Et le nom qu'on donnait un peu générique à ces avions possiblement secret américain aux performances extraordinaires, nom de code était Aurora. C'est le nom qu'on y donnait. En fait, l'Aurora n'a jamais existé. C'était vraiment un nom comme ça qui circulait pour définir ces aéronefs un peu inconnus, mais qu'on supputait être la propriété des Américains. Et à ce moment-là, quand la photo de Calvin est arrivée, c'est vrai que des gens du ministère britannique ont posé la question aux Américains, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un prototype appartenant à l'armée américaine. Puis l'armée américaine avait dit non. De toute façon, c'est tout à fait vraisemblable. On voit mal pourquoi les Américains qui ont de grands déserts aux États-Unis iraient tester leurs appareils au-dessus d'un autre territoire, autre que le leur, et le faire en secret. Tu t'imagines l'incident, parce que bon, l'Angleterre est membre de l'OTAN, comme l'était la Belgique. Imagine-toi le scandale si un de ces appareils-là devait s'écraser dans les rues de Bruxelles ou dans les rues de Glasgow. On a oublié de vous demander à permission d'aller de se promener où tu te chez vous, tu sais, puis pourtant
ça se crabe des relations.
C'est comme tu dis, ça se crabe des relations. Donc le gouvernement américain avait été clair, vos ovnis ne sont pas nos avions secrets qui sont en développement. Donc, pour revenir à notre histoire, David Clark rencontre Greg Lindsay, ce vieux militaire, et sans plus de secret, il dit, ben écoute, il dit, veux-tu avoir la photo? Il dit, ça fait 32 ans que je suis au bureau. Donc, il a sorti l'enveloppe. C'est cette fameuse enveloppe que lui avait envoyée en 1990 le Daily Record, avec un carton à l'intérieur, avec l'impression, la photo imprimée sur du papier photo, 8 par 10, et il dit, ben voilà, et puis là, il lui a montré. On est à la fois un peu déçus, puis il dit, wow, c'est une belle photo, mais ça nous dit pas grand-chose. Donc, on a une espèce de losange dans le ciel, un peu indéfini, et on a ce qui apparaît être un avion aux côtés, et la photo, quand on approche très, parce qu'il y a déjà cette semaine, il y a des gens qui ont fait circuler des agrandissements, mais il faut bien se rappeler que ces agrandissements, ce sont des agrandissements qui ont été faits à partir de la photo publiée, et pas à partir des négatifs. Donc, si tu prends une photo, puis tu l'as peut-être fait, puis des gens qui nous écoutent l'ont peut-être fait aussi, tu vas améliorer un peu ton visage parce que tu as un bouton sur le bout du nez. Okay. Il y a plein de systèmes qui peuvent améliorer les photos, là, de l'intelligence artificielle qui vont t'enlever le petit bouton sur le bout du nez, qui vont t'enlever tes petites pattes de doigts sur le côté du visage, ils vont tout faire ça. Donc, on a pris des photos de Calvin, on les a fait passer par une intelligence artificielle qui a amélioré l'image, mais il faut faire attention, dans le améliorer l'image, des fois, ces logiciels font ressortir des choses qui apparaissent pas vraiment sur la photo. Tu sais, les algorithmes sont défectueux. Quand on regarde la photo, et c'est la seule chose que l'on a, c'est une photo, une impression positive, une photo le 8 par 10, non? Et quand on regarde cette image-là, on voit que l'OVNI est légèrement flou. Il a une forme de losange. Il est brunâtre. Il est légèrement flou. L'avion qui est à côté, qui est clairement un avion Harrier de l'armée britannique, est également un peu flou. Mmh. Alors que le premier plan où on voit une branche d'arme, ça, c'est relativement clair. L'OVNI apparaît distinctement sur le fond du ciel derrière où on est, même s'il est 21h, il fait encore très clair.
Ouais.
Le ciel est très brumeux. Les nuages derrière forment un écran blanc. Donc, l'OVNI se détache sur ce fond blanc. Donc, les gens qui nous écoutent n'ont simplement qu'à entrer dans leur moteur de recherche. Calvin UFO ou OVNI Calvin. Vous allez voir la photo. Elle est partout. Mais à partir de là, on sait pas grand-chose. C'est-à-dire que tu as l'image, puis tu dis, bon, ben, OK, mais qu'est-ce que c'est? Donc, les hypothèses, on plutôt se rappeler, hein, on n'en sait pas plus que qu'est-ce qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'on a ce vieux militaire, d'ailleurs, qui a fait don de la photographie à David Clark pour qu'il la dépose à l'université où il travaille et aux Archives nationales. Donc, il fait don de la photo. Lui, ça le concerne plus. Tu sais, il s'en lave les mains. Voilà, elle traîne sur mon bureau depuis 32 ans. Je vous la donne. Merci, bonsoir. Donc, là, ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir retrouver les photographes en question. On a même fait circuler des photos. Les journaux, évidemment, qui ont repris la nouvelle cette semaine, ont fait un appel à témoins. Si des gens connaissent, ont de l'information sur ces photographies, peut-être le nom des photographes, ben, tout le moins communiquer.
Ça se ramasse dans la succession de ces gens-là. T'sais, on ne sait pas s'ils sont encore vivants ou pas. Ça ne fait pas si longtemps, mais on ne sait jamais.
Non, au moment où on se parle, cette photo-là fait, bon, là, je t'ai raconté l'histoire. C'est excessivement, c'est de la dynamite. Tout le monde parle de ça. Mais si on prend un pas de recul, ben, c'est pas si spectaculaire que ça. La photo est un peu décevante, même si elle est beaucoup plus claire que beaucoup d'observations d'OVNI. Hein, ce qui caractérise l'univers du surnaturel et des OVNI, c'est les photos floues.
Oui.
Donc ici, on a enfin une photo qui est pas trop floue. Elle est un petit peu floue, mais elle est pas trop floue. Mais ça ne nous dit pas grand-chose. Au moment où on se parle, les trois hypothèses qui sont proposées, c'est une supercherie. Et ce qui est tout à fait possible. Hein, une maquette lancée en l'air, suspendue à une branche et un avion qui passe au loin, on prend une photo, puis un gros objet loin dans le ciel ou un petit objet proche de la caméra vont donner à peu près la même impression. Donc, il est possible que ce soit une mystification. On a utilisé une maquette, ou je sais qu'une des hypothèses qui circule beaucoup, c'est on a photographié une roche dans un petit étang ici, et la partie d'en dessous de l'OVNI n'est qu'un reflet dans l'eau d'une roche à fleur d'eau. C'est possible, c'est une hypothèse qui circule. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce que l'on sait, c'est que pour l'instant, on n'a aucun document officiel qui témoigne que les militaires auraient été impliqués de quelque façon que ce soit dans cette observation. Et à partir du moment où on n'a pas les négatifs, ben, il est difficile de pouvoir avoir une idée précise. Quel est le cadrage des autres images? Est-ce que l'OVNI apparaît plus près, plus loin? On n'a absolument pas ces informations. On n'a pas non plus d'informations à partir des témoins. Donc, au moment où on se parle, c'est une belle curiosité. C'est une photo qu'on attendait depuis littéralement 30 ans. On la voit. C'est un sentiment un peu mitigé, mais bon, c'est une histoire d'OVNI qui alimente beaucoup actuellement les médias sociaux. Et à moins de retrouver les témoins ou de mettre la main sur les négatifs originaux, ben, je pense qu'on va rester suspendu à cette idée. Est-ce qu'il s'agissait bel et bien d'un OVNI? Et si l'image est authentique, ben, on ne connaît rien dans l'arsenal militaire, que ce soit du côté de l'aviation britannique ou de l'aviation américaine, qui ressemble de près ou de loin à un objet comme celui-là. Ou bien, c'est une confusion, c'est un autre objet. On aurait pu, par exemple, il pourrait s'agir, par exemple, d'un cerf-volant, que les jeunes n'ont pas compris que ça s'agissait d'un cerf-volant qui était plus près d'eux lorsqu'ils ont pris la photo.
Ah,
puis ça donne...
ouais.
Tu sais, il y a plusieurs hypothèses, là, mais sans les témoignages, sans les négatifs...
On reste au neutre.
On reste au neutre. C'est une belle photo, mais pas plus d'informations que ça. Ça reste une curiosité.
Eh bien, à suivre, Christian. Merci beaucoup. C'est un très beau résumé de l'histoire. Au retour, on va présenter l'entrevue que tu as fait avec M. Filol sur l'atterrissage de Valensole.
Oui, Valensole. On est à Valensole.
Restez là dans Radio X-Files dans les prochaines minutes. On s'arrête quelques instants sur Radio X.
Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
Sans plus tarder, Christian, je te laisse présenter l'incroyable entrevue, la capsule aux auditeurs de la soirée.
Donc, oui, puisqu'on parle de la question des ovnis, il faut savoir que l'évolution des ovnis s'est faite de manière un peu en fonction de notre propre évolution de la science-fiction. Et dans les années 50, 60, on nous décrivait les ovnis dans la science-fiction comme des machines en tôle et boulon qui se posaient, puis il y avait des occupants qui sortaient de ces engins. Donc, ce que la science-fiction rapportait à l'écran, c'était un peu ce que les gens voyaient également sur le terrain. Et il y a eu une période très, très faste au niveau des observations d'OVNI entre les années 50 et la fin des années 60, donc pendant 20 ans, une période qu'on a appelée la période des OVNI antennes, donc des objets qui se posaient, les occupants sortaient comme s'ils inspectaient leur vaisseau qui était en panne, et quand ils découvraient la présence d'un humain à proximité, ils remontaient dans le vaisseau et quittaient. L'une des plus histoires les plus classiques de cette époque, 1965, c'est l'affaire de Valensole. La France a connu d'ailleurs une période très importante d'atterrissage d'OVNI. L'affaire de Valensole est l'une d'entre elles. Et là, on nous prépare un film, Dominique Filol en est le réalisateur. Le film s'intitule Valensole. Je lui ai parlé il y a quelques jours, justement pour qu'il nous parle de cette histoire et pourquoi cette histoire mérite-t-elle de passer sur le grand écran.
Voici tous les détails.
Dominique Filol, d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Si on regarde les notes biographiques, vous êtes diplômé de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. On nous dit également que vous êtes un passionné de science-fiction, passionné d'énigmes et de mystères. Vous avez déjà produit deux documentaires sur les ovnis, à savoir Le Bureau des ovnis en 2021 et OVNI, une affaire d'État en 2020. Vous avez également produit L'énigme du Bucarac, qui était en fait un Éden qu'on nous promettait lors de cette peur millénariste de 2012. Et là, cette fois, si on regarde les sites qui sont consacrés au phénomène OVNI, particulièrement sur des plateformes françaises, on nous parle beaucoup de votre prochain film, Valensole, dont la sortie est prévue pour 2023. Valensole, c'est un grand classique de l'histoire des ovnis en France. Pour les Québécois et les Québécoises qui seraient moins familiers avec cette histoire, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques lignes qu'est-ce que c'est que cette histoire de Valensole?
Alors Valensole, c'est une histoire extraordinaire. Hein. Elle prend lieu donc le 1er juillet 1965 dans ce cadre magnifique qui est Valensole. Faut savoir que donc le plateau de Valensole, ce sont des champs de lavande à perte de vue. Et le 1er juillet 65, c'est le moment où les lavandes sont en fleur. Donc c'est absolument magnifique. Et donc le personnage principal de cette histoire, il s'appelle Maurice Mass. Donc le 1er juillet 65. Il va dans son champ de lavande, comme tous les matins, vérifier un petit peu l'état de la floraison. La récolte est proche, est imminente. Et il entend une sorte de sifflement un petit peu étrange qui l'interpelle. Donc il décide d'aller voir quel est ce sifflement. Il n'a jamais entendu ce son-là auparavant. Et il se rapproche doucement. Et puis là, il voit ce qu'il pense être une Renault Dauphine. Donc c'était des voitures à l'époque, un peu comme nos Clio aujourd'hui, nos Twingo. Il voit ce qu'il pense être une voiture, puis il se rapproche et il se rend compte que c'est pas une voiture, mais que c'est un objet assez étrange, il l'a décrit en forme de ballon de rugby. On pourrait aussi dire un avocat, pour s'imaginer cette forme. Et puis, en se rapprochant, il va découvrir très vite qu'il y a deux petits êtres qui font la taille d'enfant, à peu près 1 mètre, 1 mètre 10, qui sont à côté de l'engin. Et curieux, il se rapproche, il ne ressent pas forcément de peur. Bon, je pense qu'il est quand même un peu inquiet de ce qu'il voit, mais il ose se rapprocher. Et au moment où il se rapproche un peu trop près des deux petits êtres, l'un des deux êtres tend un objet de forme cylindrique dans sa direction, et Maurice Mass se retrouve paralysé, il ne peut plus bouger. Il voit tout ce qui se passe, il peut respirer, il a tous ses sens, mais juste il ne peut plus bouger du tout. Et là, il voit donc très vite les deux petits êtres partir un peu en courant à l'intérieur du vaisseau. Et puis là, le vaisseau s'élève dans la nuit et part à une vitesse prodigieuse. Donc là, Maurice Mass reste quand même bloqué à peu près. Il estime à être paralysé pendant à peu près un quart d'heure. Donc une fois que le vaisseau est parti, il reste comme ça paralysé au milieu de son champ de lavande. Et puis progressivement, il va retrouver l'usage de ses membres. Et une des premières choses qu'il va faire, c'est qu'il va aller, comme tous les matins, tôt, au café du coin. Et là, il est blanc, il est livide, il va voir son de ses meilleurs amis, donc qui est le patron du café, qui s'appelle Dédé Moisson, et il lui raconte ce qu'il vient de vivre. Et il lui dit surtout, tu ne répètes cette histoire à personne. Il avait déjà conscience qu'il venait de vivre une expérience un peu étrange, et il voulait surtout pas paraître pour un fou. Malheureusement, Dédé n'a pas tenu sa langue dans sa poche, comme on dit. Et très vite, le soir même, tout le village était au courant. Les gendarmes ont fini par être au courant de l'histoire Et à l'époque, faut dire que quand même dans les années 60, il y avait pas mal d'observations d'ovnis en France. Et les gendarmes étaient déjà sensibilisés à cette question, donc ils sont partis voir Maurice Mass pour savoir de quoi il en retournait. Ils lui ont demandé si c'était une blague, etc. Puis ils ont vu que Maurice était quand même pas dans son assiette. Et puis Maurice était quand même connu au village, c'est quelqu'un qui avait des terres, enfin, c'était un notable du coin, quelqu'un qui était considéré comme une personne sérieuse, qui avait été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin bon, voilà, il avait tout un pédigré derrière lui qui fait qu'on le prenait au sérieux. Et il explique aux gendarmes en fait donc ce qui lui est arrivé et là il les emmène sur les traces qui ont été laissées par l'objet. Donc les gendarmes vont découvrir qu'il y a des traces. Et là, c'est très particulier parce qu'ils vont voir que la terre est devenue dure comme du béton. Il y a une espèce de trou cylindrique à un endroit où s'est posé l'objet. Et ce qu'avait décrit Maurice, c'est qu'il y avait comme un pied qui était rentré dans la terre. Donc, c'est un trou qui fait à peu près une profondeur de 30 cm. Et voilà, donc face à ces traces, les gendarmes sont un petit peu désarmés, commencent à faire une enquête. Il y a eu plusieurs procès-verbaux qui ont été établis à la gendarmerie. Et il faut savoir qu'au départ, donc, cette histoire des deux petits êtres, il ne l'a pas tout de suite dit aux gendarmes. Il a juste dit « j'ai vu un ovni, venez voir les traces ». Et il avait peur d'être pris pour un fou. Donc quelques jours plus tard, enfin au mois d'août, il finira par expliquer tout ce qui lui est arrivé. Mais encore peut-être pas tout, parce qu'on raconte dans les milieux ufologiques qu'il y aurait un secret autour de Valensole, que Maurice Mass n'aurait pas tout dit sur cette rencontre. Et voilà, c'est une histoire qui est passionnante et très étrange. Et d'ailleurs, elle est dans les archives du GEPAN. Tout le monde peut aller voir le GEPAN, donc qui est l'organisme officiel en France qui s'occupe des ovnis. Et donc, si vous allez sur le site du GEPAN et que vous tapez Valensole tout de suite dans leur barre de recherche, vous pourrez tomber sur les procès-verbaux de la gendarmerie à l'époque. Et ça a été classé D, donc parmi les cas les plus étranges que le Centre national d'études spatiales sur lesquels ils ont pu enquêter.
Quand on regarde l'histoire de Valensole, comme à peu près toutes les histoires d'OVNI, c'est une histoire qui est excessivement controversée. On a les pour, on a les contre. Alors pourquoi avoir choisi Valensole quand on regarde l'ensemble de toutes les histoires d'OVNI? D'ailleurs, 10 ans avant l'affaire de Valensole, la France avait été le théâtre de toute une série d'observations. C'était l'automne 1954. Il y avait eu énormément d'observations d'OVNI. Donc, dans un premier temps, pourquoi avoir choisi Valensole plus qu'une autre histoire d'OVNI? Et bien sûr, j'imagine que vous étiez préparé aux critiques des sceptiques qui considèrent l'histoire de Valensole comme une grosse blague ou à tout le moins une méprise.
Alors, je rappelle qu'en fait, le film que je suis en train de faire, contrairement à mes films précédents, c'est une fiction et ce n'est pas un documentaire. Donc, à travers cette fiction, j'ai pris le parti de montrer ce que Maurice a dit qu'il avait vécu. Donc on se met à la place de cet homme qui aurait vu cet objet. Et moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, par rapport à cette histoire, c'est qu'elle a un côté aussi très cinématographique. Valensole, pour y être allé plusieurs fois, c'est absolument merveilleux. C'est une région qui est vraiment très belle. Donc c'est un endroit qui, on a envie de poser une caméra et de faire un film là. Le contexte des années 60, le petit village de Provence, il y a un côté Marcel Pagnol. Tout ça, si vous voulez, pour moi, faisait les ingrédients d'un film que j'avais envie de voir. Et au-delà de ça, je trouve que c'est une très belle histoire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres cas français, mais Valensole reste quand même parmi, je pense, le top 10 et peut-être même en haut de la liste. C'est un peu le Roosevelt français, pour moi.
Ouais. Donc, comme réalisateur, vous ne vous êtes pas trop préoccupé des commentaires des partisans ou des sceptiques qui auraient pu sortir, ou à tout le moins les discussions qui se font sur les plateformes à propos de l'affaire de Valensole?
Pas du tout, non. C'est pas, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je trouve que c'est bien d'avoir un débat sain autour de cette affaire, comme de toutes les affaires ufologiques. Hein. Je ne suis pas sûr, il y a toujours le doute, et je ne suis pas sûr à 100% que Maurice Mass ait vécu ce qu'il a dit. Et puis quand on s'intéresse vraiment au phénomène OVNI, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça, que la réalité peut être modifiée. On n'est pas à l'abri d'hallucinations, de choses comme ça. Mais par contre, ce qui est étrange avec Valensole, c'est qu'en effet, il y a des traces. On a parlé d'impact de foudre, on a parlé d'hélicoptère. Maurice Mass savait très bien ce qu'était la foudre, il avait l'habitude quand même, il travaille dans les champs, c'est un agriculteur, c'est quelqu'un qui connaît la nature. Les hélicoptères, pareil, il connaissait parce que il allait souvent en vacances près d'une base militaire, donc il savait très bien ce que c'était. Lui a toujours maintenu, n'est jamais revenu sur son témoignage. Et quand on regarde en fait tous les problèmes que ça lui a attirés, C'est-à-dire qu'il a été harcelé par les journalistes, aussi bien par des scientifiques, des ufologues, des curieux qui voulaient le voir. À chaque fois, les gens venaient à Valensole pour rencontrer Maurice Mas. Je peux vous dire qu'à la fin, il en avait ras-le-bol. Et malgré tout ça, il aurait pu dire, justement, pour être tranquille, c'était une vaste blague, et puis personne, plus jamais personne l'aurait ennuyé. Sauf qu'il n'est jamais revenu sur ce qu'il avait vécu. Et pour avoir parlé avec ses proches, je sais que c'était presque du domaine du secret de famille. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose dont on parlait souvent. Et j'ai rencontré une de ses cousines qui m'expliquait que, en fait, quand elle était petite, elle voulait à tout prix, à chaque fois qu'on lui raconte l'histoire, que Maurice lui raconte l'histoire, elle allait chez lui tous les étés. Et il voulait pas. Et puis un jour, il a tapé du poing sur la table. Il a dit « Bon, je vous la raconterai une seule fois. » Mais c'est la première et dernière fois que je vous le raconte. Après, vous ne me posez plus jamais de questions là-dessus. Donc, quand on se renseigne un petit peu, si vous voulez, sur le personnage, c'est quand même une histoire qui reste intrigante, mystérieuse. Et puis, j'ai choisi, du coup, d'en faire une fiction parce que, voilà, si j'ai des attaques de sceptiques, etc., ça reste une fiction. Je n'ai pas fait un documentaire, si vous voulez, pour défendre Maurice Mas. Par contre, je montre son point de vue d'homme choqué par l'expérience qu'il vient de vivre. Et puis on montre aussi tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire que je montre aussi face à lui les gens qui sont sceptiques, je montre les gendarmes qui s'interrogent sur le personnage, je montre les journalistes qui arrivent, certains qui ont peut-être envie un peu d'y croire, qui trouvent ça merveilleux, et d'autres qui vont dire mais non, c'était un hélicoptère, c'était la foudre. Donc j'aborde aussi cette question dans le film de l'aspect sceptique de l'affaire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un homme seul qui a vécu cette expérience. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vit une expérience comme ça? Quel est le regard des autres? Quel est le regard quel regard d'abord portez-vous sur vous à ce moment-là? Ensuite, celui de votre famille proche, et puis ensuite celui des habitants du village, et puis de tous ces journalistes qui vont débarquer, qui ne vous connaissent pas et qui vont vous poser tout un tas de questions. Donc pour ça, je trouvais déjà voilà que ça faisait une belle histoire d'un homme ordinaire qui vit une expérience extraordinaire.
Dominique Filhol, vous nous donnez envie de voir Valensole. Moi qui est très sceptique par rapport à la question des ovnis, j'ai hâte de voir Valensole. On nous annonce sa sortie pour 2023. Est-ce que ce sera disponible en salle? Est-ce que ce sera disponible sur une plateforme de l'Internet? Est-ce que les Québécois et les Québécoises pourront également voir le film Valensole?
Alors écoutez, je profite de votre émission pour expliquer un peu le contexte dans lequel on a fait Valensole. C'est un film qui est très indépendant, donc c'est mon premier long métrage. Donc pour l'instant, il n'a été financé uniquement qu'avec l'argent d'investisseurs privés, avec une partie en crowdfunding, avec des gens donc qui investissent sur le film et donc sur les futures recettes peut-être qu'il générera. Mais là, donc ce qu'on recherche actuellement, justement, ce sont des distributeurs, ce qu'on appelle aussi des vendeurs internationaux, ou une éventuelle plateforme donc qui serait intéressée pour pouvoir diffuser le film en 2023. On n'a pas encore terminé le tournage. D'ailleurs, on cherche encore toujours des financements pour cette seconde partie de tournage. Les choses s'annoncent plutôt bien, je suis confiant. Mais donc, on tourne la seconde partie du film en septembre, toujours dans la région de Valensole.
Donc, je lance l'invitation s'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui ont envie de distribuer le film, qui sont des distributeurs indépendants ou des distributeurs associés qui auraient envie de distribuer Valensole au Québec. Et j'invite éventuellement, lorsque le film sera disponible sur des plateformes, j'invite évidemment les téléspectateurs québécois, québécoises à voir ce film. Puis, j'aime bien...
Et donc, pour suivre un peu les informations par rapport à la sortie du film, on a créé une page Facebook qui s'appelle Valensole le film. Donc vos auditeurs peuvent aller éventuellement sur cette page. Et puis pour des distributeurs qui seraient intéressés, on a une adresse mail qui est valensole.lefilm@gmail.com. Ils peuvent nous contacter sur cette adresse mail là. On sera ravis du coup de pouvoir leur répondre si le projet les intéresse. Il y a déjà un teaser d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si vous l'avez.
Je vais le mettre également en aide, le teaser. On aura le lien pour que les gens puissent aller voir le teaser du film Valensole. Dominique Filhol, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je serais ravi de vous recevoir à nouveau à l'émission pour parler de votre documentaire, vos documentaires, Le Bureau des OVNIs et OVNI, une affaire d'État.
Parce
que le sujet des OVNIs m'intéresse beaucoup et dans le cas de ces deux films précédents, on parle ici de documentaire, alors que Valensole est une fiction, mais dans les deux autres cas, on parle de documentaire, et ce serait intéressant d'avoir le point de vue de la France sur la question des ovnis. Et j'imagine, comme moi, que vous devez suivre également beaucoup ces dossiers qui actuellement font un peu la manchette aux États-Unis, parce qu'on parle beaucoup d'ovnis, et j'ai vu sur les sites français, on parle également beaucoup de cette question. Et qui plus est, la France est à peu près l'un des seuls pays industrialisés à s'être doté d'un organisme étatique pour enquêter sur la question des ovnis, qui est le GEPAN. Donc, j'imagine que votre bureau des ovnis faisait un peu le tour de cette question du GEPAN.
Tout à fait. Fort intéressant. Le bureau des ovnis est un documentaire qui raconte l'histoire du GEPAN, de cet organisme unique au monde qui a été créé en 1977 par Claude Power et qui existe toujours aujourd'hui.
Et qui fait un travail tout à fait remarquable. Encore une fois, Dominique Filhol, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous, Christian.
This is not a test. Radio X Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
Je crois qu'après l'émission, Christian, on pourrait mettre le lien de la page Facebook pour suivre Valensole, le film, pour les auditeurs intéressés.
Et le teaser, hein, la bande-annonce qu'on pourra mettre aussi. Mais c'est un sujet qui est fascinant, bien sûr. L'histoire de Valensole, Dominique Filhol la décrit bien. Il mentionne bien aussi que c'est une fiction, parce que j'ai déjà vu sur des plateformes françaises qui critiquent le film en disant « Oui, mais les traces n'étaient pas exactement comme ça, c'était pas un trou aussi rond que ça. » Bon, bref, mais c'est une fiction et on en a souvent parlé ensemble. Lorsque l'on dit « basé sur une histoire vraie »,
voilà.
Il y a souvent une signature artistique du réalisateur qui est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Son objectif premier est de divertir les gens. Et je pense que Valensole va relativement bien réussir cette mission de divertir les gens. Parce que c'est vrai que si on se réfère au témoignage de Maurice Mass, le témoin principal, c'est une histoire tout à fait extraordinaire.
Et en complémentaire, si vous voulez obtenir les vraies informations, ben on a Christian Page qui les vulgarise extrêmement bien. Ici, Radio X-Files, on me dit qu'on est disponible maintenant en rediffusion sur Spotify et sur notre application. Donc, on revient à la normale, Christian. Les gens peuvent retélécharger ou du moins nous réécouter un peu plus tard dans la journée ou dans les jours qui suivent.
OK, excellent. Et moi, de mon côté, ben, je vais mettre sur le site de Radio X-Files le lien, le teaser du film Valensole.
Super. On se laisse là-dessus, Christian. Ça a passé à la vitesse de l'éclair. Encore une fois, on a lancé. Oui, c'est un sprint. On a lancé la semaine. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Et demain, c'est les fantômes.
Oui, absolument. Demain, on parle de phénomènes paranormaux.
Parfait. Bye-bye. À demain, Christian. Bye-bye.